Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la dernière édition de l'ODJ Week.
Bonjour.
Au programme, des tensions géopolitiques qui montent sérieusement, le Maroc aussi, sous les projecteurs, avec de beaux succès, mais aussi des défis importants.
Oui. Et puis on fera un tour côté culture, côté tech. Notre mission, comme d'habitude, extraire l'essentiel, repérer ce qui est marquant, et puis essayer de décrypter un peu tout ça. Allez, c'est parti. Effectivement, c'est un numéro assez dense, qui met en parallèle l'actu internationale, brûlante, on peut dire, et puis une photo assez riche du Maroc. L'idée, c'est de relier un peu les points, de voir la vue d'ensemble.
Alors, commençons par le Moyen-Orient. L'hebdo parle d'une escalade militaire assez préoccupante là. Israël aurait mené des frappes quasi simultanées,
Oui.
touchant des cibles dans 6 pays différents, si on comprend bien: Gaza, Cisjordanie, Liban, Tunisie, Syrie, Yémen et même le Qatar. C'est inédit comme étendue géographique, non?
Ah oui, c'est une démonstration de force assez spectaculaire. Les analystes dans le magazine, ils s'interrogent sur les motivations, hein. Est-ce que c'est pour redéfinir les rapports de force dans la région, face à ce qu'Israël appelle l'axe iranien? Ou est-ce que c'est aussi peut-être une façon de détourner l'attention de problèmes politiques internes en Israël? Sans doute un peu des deux, en fait.
Et ces actions, l'article le souligne bien, ça provoque une vague de condamnations internationales.
Oui.
Mais bon, pour l'instant, pas beaucoup d'actions concrètes derrière. Ça pose question sur l'efficacité des institutions comme l'ONU dans ce genre de crise, quand même.
Tout à fait. Et les risques de déstabilisation, ils sont bien réels. On parle de possibles conséquences en chaîne, de nouveaux flux migratoires, une pression sur les prix de l'énergie si ça s'étend.
Oui.
Et puis, une polarisation encore plus forte des relations internationales. C'est un jeu dangereux, clairement.
Et il y a eu cette frappe au Qatar qui a beaucoup fait parler. Elle visait le siège politique du Hamas à Doha.
C'est ça, le bilan, 6 morts. Mais apparemment, la haute direction du mouvement n'a pas été touchée. N'empêche que c'est la première fois qu'Israël reconnaît officiellement une frappe sur le sol qatari. Et le timing est fascinant ici. Frapper Doha alors que le Qatar joue un rôle central, reconnu, de médiateur, notamment sur les otages.
Oui, c'est ça qui est étonnant.
Ça envoie un message pour le moins ambigu.
Voire provocateur.
Ça complique sérieusement les efforts diplomatiques qui sont en cours, quoi.
L'ODJ Week rapporte même des récits qui circulent, bon, pas confirmés officiellement, hein, mais qui viendraient de sources proches du Hamas, d'une tentative d'assassinat qui aurait été déjouée contre 2 hauts dirigeants, Khaled Meshal et Khalil El-Haya. Apparemment, des gardes auraient été envoyés à leur place à une réunion avec leur téléphone pour tromper une surveillance éventuelle.
Ah oui, si c'est avéré, ça illustre bien cette dimension de guerre de l'ombre, hein, qui se joue en parallèle des opérations militaires visibles.
Oui.
Une guerre de renseignement, d'opérations clandestines, ça échappe souvent aux médias, mais c'est tout aussi déterminant. Et ça pose des questions sur les méthodes employées, les lignes rouges franchies.
Et toute cette tension au Moyen-Orient, elle a des répercussions assez inattendues sur la scène sportive. L'ODJ Week exprime une vive indignation, on peut dire, sur le fait qu'Israël participe toujours à l'Eurobasket 2025.
Ah oui?
Alors que la Russie, elle, est bannie de plein de compétitions à cause de la guerre en Ukraine.
Ah, c'est intéressant ça. Parce que ça met en lumière la perception d'un deux poids, deux mesures. Le magazine, d'ailleurs, décide de boycotter la couverture de l'événement. C'est une position éditoriale forte.
Oui.
Pour certains observateurs, ça soulève la question de la cohérence et de l'impartialité des instances sportives internationales face aux conflits politiques. Pourquoi cette sévérité avec la Russie et une approche différente pour Israël? Bon, c'est un débat complexe, hein, sur la politisation du sport qui est de plus en plus nette.
Restons sur les tensions internationales, mais on change de zone. L'Europe. L'OTAN a activé l'article 4 de son traité.
Oui.
Une décision qui fait suite à une demande de la Pologne, qui est très inquiète à cause d'une multiplication de drones non identifiés près de sa frontière est.
Alors l'article 4, faut rappeler, c'est pas l'article 5, hein, celui de la défense collective. L'article 4, ça ouvre une phase de consultation urgente entre les alliés quand un membre pense que son intégrité territoriale, son indépendance ou sa sécurité est menacée.
D'accord.
Donc c'est un signal politique fort envoyé à Moscou. Ça montre que l'Alliance prend ça très au sérieux. Et la Pologne, évidemment, avec sa position géographique et son soutien à l'Ukraine, elle est en première ligne.
Et malheureusement, ces inquiétudes polonaises, elles se sont confirmées de façon très concrète. Dans la nuit du 10 septembre, Varsovie a confirmé que plusieurs drones russes,
Hein?
identifiés comme des Shahed de fabrication iranienne, avaient violé son espace aérien. Ils ont été abattus par la défense polonaise.
Ça, c'est un incident très grave. On apprend même qu'un de ces drones se serait écrasé près d'un immeuble résidentiel. Heureusement, sans faire de victimes.
Ouf! Mais Varsovie a tout de suite dénoncé un acte d'agression. Alors la grande question, c'est est-ce que c'était une erreur de navigation de ces drones qui visaient peut-être l'Ukraine, ou alors un avertissement délibéré de Moscou à la Pologne, ou même une tentative de tester la réactivité, les défenses de l'OTAN. Quelle que soit l'intention derrière, ça souligne un défi majeur aujourd'hui, la prolifération des drones, y compris ces modèles pas très chers mais efficaces comme les Shahed.
Tout à fait.
Ils sont difficiles à détecter, ils peuvent saturer les défenses, traverser les frontières assez facilement.
Exactement. Et ça oblige les armées, y compris dans l'OTAN, à repenser leur système de défense aérienne, leur stratégie face à cette menace qu'on dit asymétrique. L'Alliance est clairement en état d'alerte renforcée sur son flanc Est, ça c'est sûr.
Bon, allez, on change radicalement de sujet et d'ambiance. On part au Maroc. Le pays est à l'honneur sur la scène touristique internationale. Le magazine Forbes, en partenariat avec Kayak,
oui,
vient de classer le royaume 6e meilleure destination mondiale pour 2025. C'est une super reconnaissance, ça, hein ?
Ah oui, carrément. Et cette reconnaissance, elle sort pas de nulle part, hein. Forbes et Kayak y mettent en avant la richesse culturelle unique du Maroc, la diversité des paysages, l'Atlantique, l'Atlas, le désert, et puis bien sûr le patrimoine historique des villes impériales, Marrakech, Fès, Meknès. C'est vraiment une image et une offre qui séduisent de plus en plus. Et les chiffres le confirment d'ailleurs. Dans l'Audi Hadji E-Week, record historique, 13,5 millions de touristes à fin août 2025. C'est plus 15% par rapport à l'année d'avant qui était déjà une année record.
Impressionnant. Et un moteur important de cette croissance, ce sont les Marocains résidant à l'étranger, les MRE. Ils ont été presque 3 millions à revenir au pays cet été. C'est plus 13% par rapport à 2024. C'est un segment absolument crucial pour le tourisme national. Le magazine rappelle que ce succès, il repose sur une vraie stratégie, la feuille de route 2023-2026 pour le tourisme.
Tout à fait. Cette feuille de route, elle joue sur plusieurs leviers. L'amélioration continue des infrastructures, les aéroports modernisés, les nouvelles routes, plus d'hôtels, la diversification de l'offre pour attirer différents voyageurs, culture, plage, nature, aventure, affaires, une communication plus ciblée, plus créative.
Ah oui, comme l'opération DigiJet et de l'ONMT à Lyon, là, avec l'immense trompe-l'œil du palais marocain sur la place Bellecour.
Exactement. Ça, c'est un bon exemple de cette créativité. C'est une manière originale de marquer les esprits, de donner envie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Essouira va accueillir la conférence des villes créatives de l'UNESCO en 2026.
Ah oui, c'est vrai. C'est une autre reconnaissance qui renforce l'attractivité culturelle. Bon, le défi maintenant, c'est de maintenir cette dynamique, de mieux répartir les touristes sur l'année, la fameuse désaisonnalisation, et puis bien sûr de préparer l'accueil des grands événements sportifs qui arrivent, hein. La Cannes 2025 et surtout la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. L'objectif affiché reste très ambitieux, hein. 20 millions de touristes d'ici 2030. Et ce rayonnement international, il ne se limite pas qu'au tourisme. Dans les éducation supérieure aussi, il y a une performance remarquable signalée par l'EBG iWeek, la Mehrabad Business School de l'Université internationale de Rabat.
Oui.
Mais elle fait une entrée fracassante dans le top 20 mondial du classement 2025 du Financial Times pour les Masters in Management.
Ça, c'est une excellente nouvelle pour l'enseignement supérieur marocain. Arriver à ce niveau dans un classement aussi compétitif que celui du FT, c'est une preuve de la qualité qui augmente et de la reconnaissance internationale des diplômes marocains. Ça peut attirer plus d'étudiants étrangers, renforcer l'attractivité du Maroc comme hub éducatif.
Mais bon, derrière ces succès, cette image dynamique, le dossier de l'ODG Week met aussi en lumière des défis sociaux qui persistent, voire qui s'aggravent. Il y a un rapport récent du Haut-Commissariat au Plan, le HCP,
oui,
qui révèle une remontée assez inquiétante de la pauvreté absolue.
Oui, les chiffres sont préoccupants. Le taux de pauvreté absolue a remonté à 3,9% en 2022. Ça fait environ 1,42 million de personnes sous le seuil de pauvreté absolue. C'est plus du double par rapport à 2019 où on était autour de 623 000.
Ah oui, quand même. Et fait notable, cette hausse, elle est particulièrement marquée en milieu urbain, qui était d'habitude moins touché. Le HCP pointe aussi une augmentation de la vulnérabilité économique, qui touche maintenant 12,9% de la population, et une hausse des inégalités.
Effectivement, les inégalités se sont creusées, surtout en ville. Le rapport parle d'une augmentation de l'indice de Gini. C'est l'indicateur qui mesure l'écart des revenus. Plus il est haut, plus les inégalités sont fortes.
Et comment le HCP explique ça? C'est un cocktail de facteurs, les effets qui durent de la crise du Covid sur l'emploi et les revenus, l'impact de l'inflation importée sur le pouvoir d'achat, et puis les conséquences des années de sécheresse sur l'agriculture et l'économie rurale. Face à ça, le HCP y plaide pour une croissance économique qui crée plus d'emplois de qualité et pour des politiques sociales mieux ciblées géographiquement. Autre dossier social sensible que l'ODG EWIC aborde, la situation des sinistrés du séisme d'Alaouz 2 ans après. Il y a eu des manifestations à Rabat,
Oui.
de collectifs de victimes qui dénoncent leur exclusion des aides, le manque de solutions de relogement durable.
Et en même temps, le gouvernement communique sur l'avancement de la reconstruction. Il dit que presque 24 000 maisons sont reconstruites ou réhabilitées, soit 91% d'avancement. Cette situation, elle montre bien le décalage, parfois douloureux, entre les bilans chiffrés, qui montrent des progrès matériels réels. Et le ressenti de certaines personnes sur le terrain qui peuvent se sentir oubliées ou bloquées par l'administration. La gestion du relogement, de l'accompagnement social sur le long terme, ça reste un défi énorme. Et on ajoute à ce tableau un enjeu de santé publique qui prend de l'ampleur, l'obésité. D'après les données reprises par le magazine, presque 14% des adultes marocains seraient aujourd'hui obèses. Ce chiffre place le Maroc au 9e rang en Afrique, et la tendance est plus marquée en ville et chez les femmes. C'est une conséquence directe de ce qu'on appelle la transition nutritionnelle. On change nos habitudes alimentaires, plus de produits transformés, sucrés, gras. Et en même temps, moins d'activité physique à cause de l'urbanisation, de la sédentarité. C'est un défi de santé publique majeur pour les années à venir, ça. Tous ces indicateurs sociaux, sanitaires, ça donne un contrepoint nécessaire au succès économique et touristique, c'est clair. Le classement du Maroc dans l'indice de la justice mondiale 2024, cité par l'ODG EWIC, reflète d'ailleurs cette complexité. Une position assez modeste, 110e sur 182, pour l'éducation, oui.
Ouais, mais un classement bien plus honorable, 18e, pour le maintien de la paix et de la sécurité.
Tout ça brosse le portrait d'un Maroc contrasté. Un pays à plusieurs vitesses, comme le suggère le magazine. Capable de super performances économiques, d'un rayonnement international indéniable, mais qui doit en même temps s'attaquer à des défis sociaux importants, pauvreté, inégalité, santé, éducation, gestion post-séisme, pour que le développement profite vraiment à tout le monde de manière équitable.
Bon, après ces analyses de fond, l'ODG EWIC nous offre aussi un petit zapping culturel et technologique. On va aller un peu plus vite, mais ça révèle aussi des tendances. Côté scène, on note le grand retour de Gad Elmaleh à Casablanca, avec son nouveau spectacle lui-même.
Ah oui, très attendu ça. Et changement de lieu pour le festival jazz au Chella à Rabat, qui déménage et devient Jazz à Rabat, au parc Hassan II. Ça montre une volonté de renouveler, peut-être d'élargir le public de cet événement important.
Marrakech qui continue de fasciner, le styliste américain Michael Kors a partagé sur les réseaux son coup de cœur pour la ville ocre pendant un séjour à La Mamounia.
C'est intéressant de voir que cette fascination dure. Il a parlé de l'authenticité, de la beauté de la ville. Toujours à Marrakech, mais autre registre, Bacha Coffee, la marque de café de luxe d'origine marocaine, qui se développe à l'international.
Oui.
Va ouvrir un nouvel espace à l'aéroport de Marrakech-Ménara d'ici fin 2025. C'est un signe de la montée en gamme de l'offre dans les aéroports.
Côté petit écran, on attend pour le prochain Ramadan la série Fatouma d'Idriss Rouk avec Aziz Hatab et Fatima Zahra Benasser. Et au ciné, le dernier Conjuring 4 qui cartonne au box-office dès sa sortie. Passons à la tech. Une info qui pourrait avoir pas mal de répercussions. OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, serait en train de développer sa propre puce pour l'intelligence artificielle. Ah oui, en partenariat avec Broadcom, le géant des semi-conducteurs. Objectif, lancement dès 2026. L'idée, ce serait de réduire leur dépendance énorme vis-à-vis de Nvidia, qui domine complètement ce marché stratégique.
Exactement. Et au-delà de l'aspect stratégique pour OpenAI, ça pourrait peut-être bénéficier aux utilisateurs finaux, y compris ici au Maroc. Une puce maison optimisée pour leur propre modèle d'IA, ça pourrait théoriquement améliorer la performance, la vitesse de réponse, la stabilité de services comme ChatGPT.
Moins de messages système saturé aux heures de pointe, peut-être?
Voilà, peut-être moins de latence, même en se connectant depuis Rabat ou Casa. C'est aussi un signe que la course à la maîtrise du hardware dans l'IA s'accélère. Après Google et ses puces Tensor. Dans les autres brèves tech repérées, des rumeurs sur les futurs AirPods Pro 3 d'Apple qui pourraient avoir un capteur cardiaque. L'annonce d'un ETF pour le Dogecoin, oui,
Un ETF, c'est un fonds négocié en bourse, comme pour les actions. L'arrivée d'un produit comme ça, ça facilite l'investissement dans cette crypto un peu même, quoi. D'où l'excitation et la flambée du cours.
On note aussi le règlement à l'amiable trouvé par Anthropic, le créateur de l'IA Claude, qui est concurrente de ChatGPT. Ils vont payer 1,5 milliard de dollars pour stopper les poursuites.
1,5 milliard ?
Oui, parce qu'ils étaient accusés d'avoir utilisé des livres piratés pour entraîner leur IA.
C'est une somme énorme qui souligne les enjeux juridiques et éthiques autour des données d'entraînement des IA. Ça pourrait créer un précédent important pour tout le secteur.
Et enfin, SpaceX, qui continue d'avancer vers son but de proposer la téléphonie par satellite directe sur les smartphones classiques après avoir obtenu des licences de fréquences clés aux États-Unis. Donc, beaucoup de mouvements hein, dans des domaines très variés, hein, culture, IA, finance, télécom, spatial. Et pour finir ce tour d'horizon, l'ODIG iWeek nous donne même quelques astuces du quotidien assez étonnantes. J'ai bien aimé celle pour parfumer sa maison vite fait, faire chauffer de l'eau avec des écorces de citron et des épices. Simple et efficace.
Ah oui, j'ai vu ça. Et celle pour éplucher l'ail sans garder l'odeur sur les doigts, elle est pas mal aussi, non? Il suffirait de secouer les gousses fort dans un bocal en verre fermé. Faudrait tester, hein?
Exactement.
Un petit clin d'œil pratique avant de conclure. Bon, voilà un panorama très riche tiré de ce numéro. On voit bien se dessiner les grandes lignes. Un contexte international toujours marqué par des tensions vives, une accélération technologique continue, surtout dans l'IA.
Et puis un Maroc qui joue sa carte sur la scène mondiale avec des succès notables, mais qui doit aussi composer avec des réalités sociales et économiques complexes chez lui.
C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène à une réflexion finale, qui émerge un peu en lisant tous ces articles en parallèle. Le Maroc investit massivement, on le voit avec les sommets sur les smart cities, les salons sur l'électrique. Il investit dans la modernisation de ses infrastructures, de son image internationale, surtout touristique, avec le succès qu'on a vu validé par Forbes.
Chiffres du HCP ou les échos du terrain comme à Al Aouz, c'est comment faire en sorte que cette dynamique de développement, cette sophistication de l'image des infrastructures, se traduise par des bénéfices concrets et partagés pour toute la population.
La question de l'inclusion, exactement. Comment s'assurer que la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités, l'amélioration de la santé, de l'éducation, suivent le même rythme que les grands projets et le rayonnement international? C'est sans doute ça le défi majeur pour que le développement du Maroc soit pas seulement spectaculaire, mais aussi vraiment durable et inclusif. Une question essentielle pour l'avenir, je crois.